Examen de langue de niveau moyen. Compréhension orale, partie numéro 1. Prise de notes. Vous allez entendre un texte. Avant l'écoute, lisez la feuille point par point. Pour la lecture, vous avez une minute. Après la lecture, écoutez le texte et pendant l'écoute, prenez des notes. Vous allez écouter le texte deux fois. Après la première écoute, vous avez une minute et après la deuxième écoute, deux minutes pour remplir la feuille du candidat.
Première écoute.
Le microcrédit. Qu'est-ce que la microfinance? Ce terme recouvre tous les systèmes de financement conduisant à accorder des crédits aux personnes les plus pauvres afin de leur permettre de retrouver un travail autonome. Par exemple, avec un prêt d'un peu plus de 100 euros au Vietnam, une mère de 3 enfants a pu modifier son vélo pour le transformer en restaurant ambulant proposant de la soupe. Au Mali, une autre femme, grâce à un prêt de 76 euros, est devenue vendeuse de fruits et de légumes. Selon les dernières données connues, le monde comptait au 31 décembre 2004 3164 institutions de microcrédit, lesquelles desservaient près de 100 millions de clients, dont les deux tiers faisaient partie des populations les plus pauvres du monde. Ces prêts, d'un montant moyen de 150 euros, permettent non seulement de soutenir un individu, mais parfois même une communauté, comme lorsqu'en 1976, Mohamed Younous a prêté 27 dollars à 42 femmes du Bangladesh pour qu'elles achètent des outils pour faire de la cordonnerie. C'est ainsi qu'est née la Grameen Bank, la banque des pauvres. La pionnière du microcrédit a depuis cette date prêté 5,7 milliards de dollars à 6 millions d'emprunteurs. Le microcrédit n'est pas réservé aux pays les plus pauvres. La France a été le premier pays d'Europe à adapter l'expérience de la Grameen Bank avec l'association ADI, créée en 1989. Elle a accordé 41 000 prêts de 2 800 euros en moyenne et permis la création de 42 000 emplois. Pour la seule année dernière, ce sont 7 000 précaires qui ont retrouvé un emploi grâce à ces dispositifs. Développées, ces actions de financement sont généralement appuyées par les réseaux bancaires classiques. Ces prêts, qui s'adressent plutôt aux exclus du système bancaire et aux chômeurs, débouchent souvent sur la création de micro-entreprises et les banques ne sont pas outillées pour accompagner ces petits projets, au contraire des associations. Bien qu'il soit répandu et connu, le microcrédit, qui, potentiellement, pourrait venir en aide aux 3 milliards de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde, n'est pas le remède universel pour sortir du mal-développement. Il n'est sans doute pas un moyen suffisant, en effet, pour aider les pays du Sud à résoudre leurs problèmes d'infrastructures lourdes, notamment ceux portant sur l'accès à l'eau ou à la santé. Pour autant, la microfinance démontre son efficacité pour la création de nouvelles solidarités et le développement local.
Deuxième écoute.
Le microcrédit. Qu'est-ce que la microfinance ? Ce terme recouvre tous les systèmes de financement conduisant à accorder des crédits aux personnes les plus pauvres afin de leur permettre de retrouver un travail autonome. Par exemple, avec un prêt d'un peu plus de 100 euros au Vietnam, une mère de 3 enfants a pu modifier son vélo pour le transformer en restaurant ambulant proposant de la soupe. Au Mali, une autre femme, grâce à un prêt de 76 euros, est devenue vendeuse de fruits et de légumes. Selon les dernières données connues, le monde comptait au 31 décembre 2004 3164 institutions de microcrédit, lesquelles desservaient près de 100 millions de clients, dont les deux tiers faisaient partie des populations les plus pauvres du monde. Ces prêts, d'un montant moyen de 150 euros, permettent non seulement de soutenir un individu, mais parfois même une communauté, comme lorsqu'en 1976, Mohamed Younous a prêté 27 dollars à 42 femmes du Bangladesh pour qu'elles achètent des outils pour faire de la cordonnerie. C'est ainsi qu'est née la Grameen Bank, la banque des pauvres. La pionnière du microcrédit a depuis cette date prêté 5,7 milliards de dollars à 6 millions d'emprunteurs. Le microcrédit n'est pas réservé aux pays les plus pauvres. La France a été le premier pays d'Europe à adapter l'expérience de la Grameen Bank avec l'association ADI, créée en 1989. Elle a accordé 41 000 prêts de 2 800 euros en moyenne et permis la création de 42 000 emplois. Pour la seule année dernière, ce sont 7 000 précaires qui ont retrouvé un emploi grâce à ces dispositifs. Développées, ces actions de financement sont généralement appuyées par les réseaux bancaires classiques. Ces prêts, qui s'adressent plutôt aux exclus du système bancaire et aux chômeurs, débouchent souvent sur la création de micro-entreprises et les banques ne sont pas outillées pour accompagner ces petits projets, au contraire des associations. Bien qu'il soit répandu et connu, le microcrédit, qui, potentiellement, pourrait venir en aide aux 3 milliards de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde, n'est pas le remède universel pour sortir du mal-développement. Il n'est sans doute pas un moyen suffisant, en effet, pour aider les pays du Sud à résoudre leurs problèmes d'infrastructures lourdes, notamment ceux portant sur l'accès à l'eau ou à la santé. Pour autant, la microfinance démontre son efficacité pour la création de nouvelles solidarités et le développement local.
Partie numéro 2, vrai-faux. Vous allez écouter un texte. Avant l'écoute, lisez les informations sur la feuille. Pour la lecture, vous avez une minute. Vous allez écouter le texte deux fois. Après chaque écoute, vous avez une minute pour décider si les informations sont vraies ou fausses. Après la deuxième écoute, écrivez vos réponses sur la feuille du candidat.
Première écoute.
1 million de personnes seraient inaptes à la conduite. Il est malade, prend un traitement incompatible avec la conduite automobile et se rend régulièrement chez son médecin, en voiture. Des cas comme ceux-là, les praticiens en voient défiler des centaines dans leur cabinet. Des personnes âgées invalides, d'autres malvoyants ou qui ont un problème cardiaque majeur. D'autres encore qui prennent des médicaments à haute dose ou qui boivent régulièrement de l'alcool. Tout cela ne devrait plus toucher une voiture, tant ils mettent en danger la vie des autres, avec le plus grand silence des médecins. Or, le secret médical, qui les oblige à garder le silence, pèse de plus en plus aux praticiens conscients. En plus, avec le vieillissement de la population, le nombre d'inaptes à la conduite ne fera que croître. Mais terrible dilemme. Ils savent aussi que rompre le silence, c'est rompre le rapport de confiance avec les patients. Si on avait le droit de signaler les personnes qui prennent le volant alors que c'est contre-indiqué, certains patients cacheraient leur état de santé, dit le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette institution, qui veut préserver ses liens confidentiels, travaille à l'heure actuelle sur le moyen de faire remonter les informations au sujet d'un patient dangereux. Il s'agit d'informer sans violer le secret médical. Concrètement, le patient remplirait un questionnaire médical concernant les maladies et les traitements qu'il adresserait ensuite à son médecin de famille. Ce dernier déciderait de l'envoyer ou non en consultation auprès d'un collège de médecins dans les préfectures. Les préfectures se prononceraient sur l'aptitude ou non à la conduite. Le secret médical serait ainsi protégé. Mais, en cas de fausse déclaration du patient, les conséquences seraient lourdes. A-t-on le droit de laisser quelqu'un mettre en jeu la vie des autres? Les spécialistes estiment à 1 million le nombre de personnes qui ne devraient pas conduire en raison de leur état de santé. Le médecin a un rôle important à convaincre le patient. Mais encore faut-il qu'il soit bien informé et sensibilisé au sujet, ce qui est loin d'être le cas. La famille peut aussi intervenir. Avec mon frère, on a été obligé de confisquer les clés de son véhicule à notre père, âgé de 90 ans et invalide. C'est un déchirement pour nous, et un drame pour lui, raconte un père de famille. Le gouvernement ne semble pas encore prêt à suivre ce qui se fait à l'étranger, comme l'a rappelé le secrétaire d'État aux transports. Pour lui, si des examens médicaux devraient être mis en place, ils concerneraient tous les usagers, sans distinction. L'inaptitude à la conduite dépend davantage de l'état de santé du conducteur que de son âge, estime le secrétaire d'État.
Deuxième écoute.
1 million de personnes seraient inaptes à la conduite. Il est malade, prend un traitement incompatible avec la conduite automobile et se rend régulièrement chez son médecin, en voiture. Des cas comme cela, les praticiens en voient défiler des centaines dans leur cabinet. Des personnes âgées invalides, d'autres malvoyants ou qui ont un problème cardiaque majeur. D'autres encore qui prennent des médicaments à haute dose ou qui boivent régulièrement de l'alcool. Tout cela ne devrait plus toucher une voiture, tant ils mettent en danger la vie des autres, avec le plus grand silence des médecins. Or, le secret médical, qui les oblige à garder le silence, pèse de plus en plus aux praticiens conscients. En plus, avec le vieillissement de la population, le nombre d'inaptes à la conduite ne fera que croître. Mais terrible dilemme. Ils savent aussi que rompre le silence, c'est rompre le rapport de confiance avec les patients. Si on avait le droit de signaler les personnes qui prennent le volant alors que c'est contre-indiqué, certains patients cacheraient leur état de santé, dit le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette institution, qui veut préserver ses liens confidentiels, travaille à l'heure actuelle sur le moyen de faire remonter les informations au sujet d'un patient dangereux. Il s'agit d'informer sans violer le secret médical. Concrètement, le patient remplirait un questionnaire médical concernant les maladies et les traitements qu'il adresserait ensuite à son médecin de famille. Ce dernier déciderait de l'envoyer ou non, en consultation, auprès d'un collège de médecins dans les préfectures. Les préfectures se prononceraient sur l'aptitude ou non à la conduite. Le secret médical serait ainsi protégé. Mais, en cas de fausse déclaration du patient, les conséquences seraient lourdes. A-t-on le droit de laisser quelqu'un mettre en jeu la vie des autres? Les spécialistes estiment à 1 million le nombre de personnes qui ne devraient pas conduire en raison de leur état de santé. Le médecin a un rôle important à convaincre le patient. Mais encore faut-il qu'il soit bien informé et sensibilisé au sujet, ce qui est loin d'être le cas. La famille peut aussi intervenir. Avec mon frère, on a été obligé de confisquer les clés de son véhicule à notre père, âgé de 90 ans et invalide. C'est un déchirement pour nous, et un drame pour lui, raconte un père de famille. Le gouvernement ne semble pas encore prêt à suivre ce qui se fait à l'étranger, comme l'a rappelé le secrétaire d'État aux transports. Pour lui, si des examens médicaux devraient être mis en place, ils concerneraient tous les usagers, sans distinction. L'inaptitude à la conduite dépend davantage de l'état de santé du conducteur que de son âge, estime le secrétaire d'État.
Fin de l'exercice.